Bien, bonsoir. Dernier cours en histoire de l'art. On avait débuté avec Caravage en Italie au XVIIe siècle. Eh bien, on va terminer dans l'Italie du XXe siècle, plus précisément les années qui suivent la Première Guerre mondiale et qui voient se mettre en place un pouvoir autoritaire incarné par Benito Mussolini, que nous avons ici. La question qu'on va se poser, c'est quelle est la place de l'art dans ces années-là? En fait, le fascisme italien ne définit pas d'art officiel. Il y a une mainmise de l'État sur la société, il y a un embrigadement qui vise à créer un homme neuf, mais on n'est pas dans l'asservissement pur et simple comme dans les régimes totalitaires soviétiques et allemands. En fait, il y a plusieurs aspirations et il y a un dénominateur commun, le passé. On va largement envisager la peinture ce soir et on va voir que le passé, qu'il soit célébré ou qu'il soit repoussé, ce passé interroge. Et au-delà, l'artiste interroge également sa place dans le présent. Et c'est ce qu'on va voir dès à présent. Alors, bon, il faut faire un bref rappel historique, histoire de camper le décor. Donc, fin de la guerre, fin de la Première Guerre mondiale, on a en Italie une crise sociale très très importante, avec un grand nombre d'émeutes, un grand nombre de grèves. Les Italiens s'estiment bernés, s'estiment floués par les négociations de paix. Ils estiment notamment ne pas avoir obtenu le juste prix de leur effort de guerre. Les Italiens convoitaient des territoires en Slovénie, en Croatie. Ils convoitaient plus précisément l'Istrie et la Dalmatie. Et ces territoires leur échappent. Donc ils en conçoivent une grande frustration, une grande déception. Et à cela s'ajoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les émeutes, toutes les grèves qui vont suivre après la Première Guerre mondiale. Et celui qui va apporter une solution brutale et radicale à cette crise sociale de très grande ampleur, c'est Benito Mussolini. Benito Mussolini, il arrive vraiment sur le devant de la scène au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1919, il crée les faisceaux italiens. Et ces faisceaux italiens, on est vraiment dans une brutalisation des comportements, ces faisceaux italiens vont monter des expéditions punitives contre les grévistes. Ces faisceaux italiens, c'est un mouvement hybride. C'est un mouvement hybride qui rassemble à la fois des anarchistes et qui rassemble également des nationalistes. Et c'est un mouvement qui, sur le moment, semble apporter la solution idéale. Sur le moment, il va séduire toute une partie de la population qui est inquiète. À l'idée d'une révolution et qui est inquiète face à ces mouvements sociaux qui sont grandissants et qui ont une ampleur de plus en plus importante. Au-delà de cette brutalisation des comportements de l'après-guerre, c'est vraiment un phénomène qu'on observe un peu partout en Europe. En tout cas, le fascisme va systématiser cette violence en menant des expéditions punitives à l'encontre de tous ceux qui sont une menace pour l'ordre social. Progressivement, ce mouvement fasciste va se propager et va s'organiser, va s'institutionnaliser, tant et si bien qu'en 1921, ces faisceaux italiens deviennent le Parti national fasciste. En octobre 1922, Benito Mussolini prend le pouvoir. À l'époque, l'Italie, c'est une monarchie qui est gouvernée par Victor Emmanuel III. Et Victor Emmanuel III va donner les pleins pouvoirs à Mussolini, et va assez consciemment faciliter l'avènement de la dictature. Et il va se faire totalement berner, puisque progressivement Mussolini va le délester de tout pouvoir. Donc la marche vers le fascisme, elle est en marche, pardon pour l'expression boiteuse. Progressivement, la démocratie est durablement abolie, et on va être dans la dictature au sens propre du terme, c'est-à-dire un État où tout pluralisme est aboli. Un État qui est désormais aux mains d'un seul homme, Mussolini, la citoyenneté est anéantie, tout le champ politique est vampirisé au profit de l'idéologie fasciste, et la société est contrôlée et conditionnée. J'ai évoqué tout à l'heure, chez les artistes, ce goût pour le passé. Ce retour aux sources, il est dans l'ordre des choses. Une vraie mode à cette époque, ce retour aux sources, ce retour à un passé italien, à un passé romain. On a parlé de romanité, on a parlé même de méditerranéité pour évoquer ce goût pour le passé ancien et pour toute la tradition en Italie. Et Mussolini a un idéal à cette époque, c'est l'Antiquité. À ses yeux, c'est la seule source de l'art occidental. Et il est à la recherche, Mussolini, d'une ascendance prestigieuse qui pourrait, comment dire, qui pourrait le légitimer, qui pourrait renforcer son autorité. L'Antiquité, chez Mussolini, elle va être donc totalement fantasmée et elle va être un outil, elle va être instrumentalisée. C'est vraiment un idéal, l'Antiquité, qui va irriguer toutes les entreprises, tous les discours de Mussolini. L'ambition de Mussolini, c'est de créer une troisième Rome. Il y a eu la Rome des empereurs romains, il y a eu la Rome des papes, et bien il y aura cette troisième Rome, cette Rome fasciste, voulue et orchestrée par Mussolini. Je suis tombée sur un article qui avait été publié dans un des journaux, très important de l'époque, qui s'appelle Il Popolo d'Italia, et c'est un article qui avait été publié en avril 1921, et Mussolini, à cette époque, déclare « Rome est notre point de départ et de référence. Elle est notre symbole, ou si l'on veut, notre mythe. Nous rêvons l'Italie romaine, c'est-à-dire sage et forte, disciplinée et impériale. Beaucoup de ce qui fut l'esprit immortel de Rome renaît dans le fascisme. » Donc l'Antiquité va être vampirisée, littéralement, par Mussolini et par ses sbires. Donc c'est dans ce contexte, au-delà, qu'il faudra envisager tout ce que je vais vous montrer ce soir, toute cette peinture qu'on a parfois appelée le retour à l'ordre. C'est une expression, ce retour à l'ordre, qui désigne tout cet intérêt nouveau pour le passé, pour un certain classicisme. Et c'est un intérêt donc, qu'on va voir en Italie, mais qu'on peut trouver de façon similaire dans d'autres pays comme la France, comme l'Allemagne. Dans tous les cas, en Italie, dans cet entre-deux-guerres, tout tourne autour des concepts de tradition. On vise un idéal fait de pureté, fait d'authenticité. On vise à une atemporalité qui pourrait exacerber cette filiation de Rome à l'Antiquité. Ce temps lointain, hein, je le répète, doit assurer la cohésion du peuple et doit lui, doit lui assurer une ascendance lointaine et prestigieuse. C'est dans ce contexte-là, c'est vraiment très intéressant parce que tout est lié. C'est dans ce contexte-là qu'il faut envisager toutes les fouilles archéologiques qui sont menées à cette époque. La Rome d'aujourd'hui, le visage de la Rome d'aujourd'hui avec ses monuments magnifiques hein, qui sont vraiment mis en valeur, qui sont singularisés dans la ville, tout ça, c'est l'œuvre de Mussolini. Mussolini voulait exhumer, voulait mettre en scène le passé romain et il a vraiment cette obsession, hein, il faut ressusciter la grandeur de Rome. Et donc, on est vraiment dans une forme de mise en scène. Le but est vraiment d'isoler, entendre faire table rase du superflu, d'isoler les monuments romains et de les mettre en valeur dans le tissu urbain de l'époque. Donc, Mussolini ne va pas hésiter à être très iconoclaste, à détruire toutes les strates architecturales qui s'étaient greffées les unes après les autres au fil du temps et qui, selon lui, gênaient la valorisation des monuments. On est dans la mise en scène, donc tout va être mis à profit pour exhumer les lieux phares du passé romain. Et là, je vous montre une photographie, c'est la zone des forums impériaux qui est dégagée à cette époque. Donc on va démolir tout ce qui encombre cette zone antique et ça va devenir la Via dell'Impero qui était un lieu très important pour toute la liturgie fasciste parce que c'était le lieu de prédilection pour tous les défilés à travers les vestiges de la Rome antique. Et au-delà, ce qui est caractéristique pour cette époque, c'est le curetage des villes. C'est-à-dire que c'est un curetage qui prend deux niveaux. Il y a un curetage démographique, on va délester les centres des populations un peu modestes, on va les exiler en périphérie. Et c'est un curetage concret, matériel, architectural, puisque on va démolir tous les bâtiments qui ne sont pas antiques et qui gênent la valorisation de ce passé romain. Et à la place, on va construire ça c'est une photographie de Mussolini prêtant main forte, hein. Mussolini était très très physique, donc il prête main forte à la fois pour démolir tous les vestiges médiévaux, les vestiges de la Rome, de la Renaissance, de la Rome baroque, etc. Et on le verra aussi, il n'hésitait pas à frousser les manches pour travailler dans les champs, là aussi, pour servir toute cette liturgie fasciste. Mais on le verra tout à l'heure. Allons-y pianissimo. On détruit donc les centres anciens, soit pour valoriser l'Antiquité, soit carrément pour construire ex nihilo des centres marqués par la monumentalité, marqués par le gigantisme. C'est le cas à Brescia, notamment en Lombardie, où la place avait été totalement restructurée et on avait construit des bâtiments qui frappent justement donc par cette monumentalité et par l'utilisation. Alors bon, là, la photographie noir et blanc, j'ai voulu faire un petit côté vintage, mais en fait, c'est une architecture qui frappe par l'alliance du blanc et du noir. C'est quelque chose de très, très graphique. Et là encore, c'est pour imposer une certaine autorité et une certaine austérité. Donc, dans son rapport à l'art, quelle est la position du fascisme? Bah, c'est une position très ambiguë. Le fascisme oscille entre une volonté de contrôle et une volonté de laisser une certaine liberté de création, dans la mesure, évidemment, où la création épouse, de près ou de loin, l'idéologie fasciste. Du coup, en Italie, à cette époque, on est entre tradition et avant-gardisme. Je vais me lancer dans le vif du sujet, et pour ouvrir cette incursion dans la peinture italienne de cette époque, je voudrais citer Mussolini en mars 1923 et en octobre 1926. En mars 1923, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition de peinture, il déclare « Loin de moi l'idée d'encourager quelque chose qui puisse être assimilé à un art d'État. L'art entre dans la sphère de l'individu. L'État a un seul devoir, celui de ne pas le saboter, de fournir des conditions humaines aux artistes, de les encourager du point de vue artistique et national. » On est en 1923, et en 1926, en octobre 1926, lors d'un discours à l'Académie de Pérouse, il écrit « Nous ne devons pas rester des contemplatifs, nous ne devons pas profiter du patrimoine du passé, nous devons créer un art nouveau, un art de notre temps, un art fasciste. » Donc sa pensée évolue en quelques années. L'art reste en tout cas un outil qu'il souhaite optimal. Il faut éduquer la population et il faut incarner le renouveau impulsé par le fascisme. La peinture à cette époque, je l'ai dit tout à l'heure, va avoir un rapport assez particulier au passé, qu'elle le célèbre ou au contraire qu'elle le contrecarre, qu'elle le contredise. Il faut faire un flashback sur une des avant-gardes les plus importantes, les plus tonitruantes aussi, qui fait une entrée fracassante au début du XXe siècle et qui est très importante puisqu'elle naît en Italie, c'est le futurisme. Le futurisme, c'est un mouvement artistique, littéraire, musical, un mouvement de grande ampleur qui est porté par la personnalité très, très atypique de Filippo Tommaso Marinetti, qui va en 1909 publier un manifeste dans le Figaro. Et Marinetti est fasciné par la modernité, par la vitesse, par la mécanique. Et tous les artistes, tous les intellectuels qui vont se greffer à ce mouvement futuriste vont chercher à traquer le mouvement et à en restituer le dynamisme. Une des toiles les plus emblématiques de cette époque, c'est le dynamisme d'une automobile de Luigi Russolo. Le manifeste du futurisme écrivait, je cite, « La splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course, avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace. » La victoire de Samothrace, petite parenthèse, c'est un des parangons de la sculpture grecque de l'Antiquité. Elle est conservée au musée du Louvre. C'est le chef-d'œuvre par excellence. Eh bien, ce chef-d'œuvre, hop, on en fait table rase pour célébrer la modernité dans toute sa splendeur. Une modernité mécanique. Ici, on a des couleurs saturées, des lignes en forme de V qui se rapprochent de plus en plus et qui traduisent le mouvement d'une voiture. On est dans quelque chose de mouvant, de fébrile. Ça, c'est tout à fait caractéristique du mouvement futuriste. Marinetti est une personne très, très importante. C'est un théoricien, c'est un critique d'art. Il a beaucoup séjourné en France. Et à cette époque, pour lui, la France, c'est le pays de la révolution, des révolutions. Il y fréquente les milieux anarchistes. Il faut vraiment avoir à l'esprit ce goût pour la politique, ce goût pour l'anarchisme quand on lit le manifeste du futurisme où Marinetti clame cette volonté de faire table rase du passé. Et Marinetti va, alors que Mussolini prend le pouvoir, Marinetti va avoir des velléités fascistes. Il va flirter dangereusement avec la politique, mais il va s'en éloigner. Marinetti, c'est un idéologue, hein, c'est pas un pragmatique, c'est pas un homme de terrain. Donc il va être très rapidement rebuté par tous les compromis, toutes les compromissions en tout genre. En tout cas, Marinetti, qui avait été idolâtré à l'étranger au départ, va être très rapidement conspué, très rapidement critiqué. Il s'était fait le défenseur de la liberté totale, et voilà qu'il va s'enferrer dans une idéologie fasciste. Et je suis tombée l'autre jour, mais par hasard, mais du coup ça tombait à pic, sur une lettre d'un intellectuel qui s'appelait Guido Delta. Et Guido Delta publie une lettre dans le journal L'Œuvre, en 1930, à propos de Marinetti. Et il lui écrit: « Marinetti, il n'est pas possible, honnêtement, d'être en même temps fasciste et futuriste. Non, fascisme et futurisme sont aux antipodes. Futurisme signifie négation, destruction du passé, de tout le passé. Son but est la création quotidienne et perpétuelle du nouveau. Son caractère est le désordre, l'indiscipline, la négation de tout principe et de tout dogme. Et le fascisme ? En quoi est-il futuriste ou simplement novateur ? Rien au monde de plus foncièrement passéiste. Dans ces conditions, décidez-vous. Ou vous faites acte d'apostasie publique et officielle, abjurant votre foi futuriste et abdiquant vos hautes fonctions de chef du futurisme, ou démissionnez de la présidence de l'Académie d'Italie, dites zut à Mussolini, annulez le mariage de raison contracté avec le fascisme et redevenez le libre hérésiarque de jadis. » Voilà, je ne l'ai pas cité par hasard, cet extrait. Les futuristes, en fait, vont beaucoup être, être séduits par le fascisme, et il va y avoir un certain nombre de compromissions. Et c'est vraiment une avant-garde, le futurisme, qui va être radical, qui va être révolutionnaire, qui va beaucoup, beaucoup marquer les artistes européens dans ce premier tiers du XXe siècle. Et malheureusement, il va petit à petit s'étioler, s'enfermer, devenir de plus en plus étriqué, jusqu'à épouser totalement l'idéologie fasciste. Le futurisme, c'est un mouvement, je l'ai dit, très important. C'est un mouvement qui évolue, c'est aussi la marque, hein, de la vitalité de ce courant. Et en 1929, donc dans l'entre-deux-guerres, il y a un nouvel élan. Il y a une volonté de peindre la vitesse, mais la vitesse vue d'en haut, la vitesse vue du ciel. Une date importante, 1929, c'est le manifeste de l'aéropeinture futuriste. On cherche à mettre en place une esthétique capable de refléter les perspectives mouvantes, les perspectives aléatoires du vol. Donc on va avoir des tableaux marqués par la distorsion des formes, marqués par des perspectives très étonnantes, très vertigineuses, pour rendre sensible le mouvement. Les artistes donc vont adopter des points de vue surélevés, des points de vue exaltants, des points de vue enivrants, qui donnent vraiment une impression de liberté, de puissance, de pleine domination. C'est des œuvres très belles, très spectaculaires, on va le voir par la suite, qui sont toutes à la gloire d'une certaine virilité aussi. Hein. On est vraiment dans la domination virile. Voilà, premier artiste, Tullio Craghi. C'est un artiste intéressant, c'est un autodidacte qui est venu un peu par hasard à la peinture, et il n'a rejoint le futurisme que tardivement. Il devient futuriste au moment où on s'engage dans l'aéropeinture, donc à la fin des années 20. Cette toile, elle est intitulée « Aéropeinture », elle emprunte au cubisme, on pense à des artistes comme Robert Delaunay notamment, et elle emprunte au futurisme naturellement, avec cette fragmentation des images, des couleurs. Les bleus prédominent ici, hein, il s'agit de saisir toutes les nuances du bleu du ciel investies par le mouvement de ces avions qui foncent sur le spectateur. Autre œuvre de Tullio Craghi, « Le paysage urbain », une œuvre réalisée en 1939, marquée par des tons marrons, des tons gris, des tons de bleu. On est dans un paysage très minéral, un paysage urbain totalement anthropisé, hein, la nature est inexistante. C'est vraiment un hymne à la modernité, un hymne à l'homme, puisqu'ici, tout est de la main de l'homme. Les gratte-ciels, les infrastructures comme les ponts, les tunnels, les véhicules, on est vraiment dans la pleine puissance de la modernité. Et une vision très, très ascendante, hein, une composition pyramidale, là encore, hein, toute cette volonté de domination, cette volonté de virilité, voilà, avec toutes ces formes érigées. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le subjectif, mais c'est aussi voulu de la part de l'artiste. Alors, on était dans l'ascension, là on est dans la descente, avec un tableau intitulé « En piqué sur la ville ». J'évoquais tout à l'heure le goût, hein, pour ces perspectives mouvantes vues du ciel. Là, on est vraiment fou du vertige. On est dans le cockpit avec le pilote. On est projeté dans le vide. Et c'est une plongée impressionnante vers les immeubles dont la verticalité filante accentue cette impression de vitesse. Et toujours des tons, une palette très restreinte, hein, des tons dans les gris, dans les marrons, dans les bleus. Là encore, des tons qui évoquent la mécanique, qui évoquent la modernité et qui évoquent au-delà la vitesse. Autre artiste, Gerardo Dottori. Tous ces artistes-là dont je vous parle, ce sont des artistes qui naissent à la fin du 19e siècle, donc qui ne sont pas neufs dans la peinture, hein, qui ont une certaine expérience de vie et une certaine expérience d'art dans cet entre-deux-guerres. Gerardo Dottori, c'est un futuriste de la première heure, et ce jusqu'à sa mort, hein. Il va garder ce style jusqu'au bout, il meurt en 1977, et la toile que je vous présente ici s'intitule « Forme ascensionnelle », c'est une toile qui a été peinte en 1930, qui est conservée à Pérouse. Dottori était originaire de la ville, donc c'est pour ça que le Palazzo della Pena conserve un certain nombre d'œuvres de lui. Et dans ce paysage, eh bien, on a d'immenses montagnes dont les cimes semblent percer le sol pour monter jusqu'au ciel, culminer au plus haut, et ces montagnes menacent même les bornes du tableau, accentuant cette sensation de nature omnipotente et fière. Une nature très géométrisée, très mécanisée, pourrait-on dire. Autre tableau qui là encore évoque des paysages, alors un tableau d'une beauté lyrique très sereine, très très apaisante, Aurore sur le Golfe, c'est un tableau qui a été peint en 1935. On a donc une vue aérienne, hein, sur le golfe et sur le village qui le borde, et on a cette liaison entre les bleus du ciel et de la mer, des bleus qui se fragmentent et qui se rencontrent, baignés par cette lumière de l'aurore, donc une vision très élégiaque, très lyrique de la nature. Fortunato De Perro. Alors lui, c'est un artiste qui est très polyvalent, qui a à la fois fait des peintures, il a fait également des décors de théâtre, des décors pour des ballets, et c'était également un illustrateur. Il a publié un certain nombre d'illustrations dans la revue américaine Vanity Fair. Des illustrations très belles, très graphiques. L'outillage de De Perro, c'est généralement un fond noir avec des couleurs très pétantes, du bleu, du rose, du jaune, du rouge, des formes toujours très géométriques, très léchées. Donc on a vraiment un côté graphique très efficace qui marque l'œil. Là encore, on a un hymne à la modernité, à la machine, hein, on est très très loin des visions enchantresses de Dottori que j'évoquais tout à l'heure. On est à nouveau dans un univers minéral, mécanique, totalement investi par les créations de l'homme. Mais avec des coloris un peu fantaisistes, on est toujours dans un univers très, très ludique avec Fortunato De Perro. Autre futuriste, Enrico Prampolini. Et là, on a une ode à Mussolini, hein, puisqu'on le reconnaît, c'est le cavalier Mussolini, celui qui chevauche... Pardon pour mon accent dernier, un cheval, son fidèle destrier, à travers un paysage abstrait. Ce tableau est intitulé « Dynamisme de l'action ». C'est un tableau qui est peint en 1939. Prampolini est un artiste, mais c'est aussi un théoricien. Il s'engage corps et âme dans le futurisme, puis dans l'abstraction. Et là, dans ce tableau, on est vraiment à mi-chemin entre futurisme et abstraction. C'est un artiste qui, au-delà, va être très cosmopolite. Il va entretenir un grand nombre de relations avec des artistes européens qui, comme lui, s'engagent dans l'abstraction. Le premier tiers du XXe siècle, c'est vraiment une période charnière où on cherche à s'affranchir de la figuration et à s'engager dans un nouveau vocabulaire plastique. Et donc, on cherche à développer un nouveau langage. Donc ici, on a cette silhouette immense, stylisée de Mussolini, qui plane, qui surmonte un paysage abstrait. On a ce dynamisme des lignes et de ces couleurs froides, des tons bleus, des tons blancs, des tons marrons. On est encore là, dans quelque chose de très minéral. Donc il y a eu la cacophonie, le chaos du futurisme, puis de l'aéropeinture. Et puis, il y a eu une réaction à ce déferlement de forme, à ce déferlement de mécanique et de modernité, c'est la peinture métaphysique. La peinture métaphysique, on pourrait la définir comme un retour au modèle classique. Ce sont des peintures qui se caractérisent par un réalisme nimbé de silence, d'une certaine pesanteur, d'une certaine mélancolie. On est vraiment dans quelque chose de très sobre et de très silencieux dans la peinture métaphysique. Et on est dans une forme d'archaïsme également. On va le voir avec des exemples précis. Du coup, l'artiste est vraiment dans un rôle un peu passif par rapport aux objets, par rapport aux personnages qu'il représente. Et on est vraiment dans une réaction radicale aux déflagrations des avant-gardes. Il y a un livre qui est assez intéressant à lire de ce point de vue-là, qui a été écrit par un futuriste, Gino Severini. C'est un livre qui est publié en 1924 et qui s'intitule « Du cubisme au classicisme ». Donc vraiment, revirement de situation, Severini il avait embrassé toutes les avant-gardes européennes et finalement, il va se ranger du côté du classicisme. Et il va abandonner toutes ses expériences sans état d'âme. Alors parmi les figures majeures et fondamentales de cette peinture métaphysique, il y a Giorgio de Chirico. Je bois un coup. Alors, né également à la fin du 19e siècle, hein, Chirico, il est né en 1888. Il n'est pas du tout italien, il est né en Grèce au départ, un espace chargé d'histoire, chargé de mythes. Et justement, c'est un espace qu'il va réinterpréter, qu'il va mythifier en liant dans une même vision la réalité et l'imaginaire. Les œuvres de Giorgio de Chirico se caractérisent par un espace fluctuant. Au départ, on a des perspectives un peu bizarres, aux multiples points de fuite, marqués par le vide. Ce qui est vraiment fondamental dans les œuvres de Giorgio de Chirico, surtout à cette époque, c'est l'absence d'homme. L'absence de femmes, à la place on a des statues, on a des mannequins, souvent sans visage, donc ça accentue cette impression de non-sens, d'ambiguïté, et Chirico aime beaucoup aussi juxtaposer des objets qui apparemment n'ont pas de lien, n'ont pas de sens. Donc on a vraiment des visions très insolites, et du coup des visions très inquiétantes. À la fin des années 20 et au début des années 30, on a un retour à un certain classicisme avec Chirico, qui va d'ailleurs heurter ses admirateurs. Au départ, Giorgio de Chirico, il est adulé en Europe, et notamment en France, par les surréalistes, qui vénèrent justement ce côté onirique. Les Époux, c'est un tableau qui est conservé en France, au musée de Grenoble, un tableau peint en 1926. Et je vous disais tout à l'heure que la figure humaine était absente dans les œuvres de Chirico. Bah là, on en a un exemple assez typique avec ces deux figures, ces deux mannequins monumentaux, sans visage. Et on a une étrangeté qui se dégage de ce tableau, une étrangeté qui vient aussi du corps de ces mannequins. C'est un corps qui se fond, donc on a une espèce de créature hybride, une créature impersonnelle, étrange. Et le corps n'a plus rien d'humain puisqu'il est criblé de monuments, de constructions. Donc la déshumanisation est totale ici. On la retrouve, cette déshumanisation, dans un autre tableau intitulé « Les archéologues » et qui est peint en 1927. Toujours cet agencement d'un homme, d'une femme, on ne sait pas vraiment. En tout cas, un couple de mannequins. Les bras, les mains évoquent encore l'humanité, mais le haut du torse et le visage n'a rien d'humain. On est vraiment face à des marionnettes, face à des silhouettes dénuées de vie. Et ce couple monumental est engoncé dans un intérieur disproportionné, ridiculement étroit, ridiculement minuscule. Et on a là encore le goût pour l'hybridité, puisque le corps de ces personnages est jonché de ruines et de monuments. Au-delà, clin d'œil au passé de l'Antiquité, le passé grec, le passé romain. Donc on est vraiment dans une réaction radicale hein, aux déflagrations des avant-gardes. Du coup, il y a un certain nombre de peintres qui vont être très très influencés par cette vision et qui vont se greffer à cette esthétique qui va être en Italie diffusée par une revue, pardon pour l'accent, une revue qui s'appelle Valori Plastici, qui va être éditée à partir de 1918. Et bientôt, donc, ce retour à l'ordre, ce goût pour un certain classicisme va irriguer toute l'Italie. Alors, un des artistes qui va virer de bord, c'est Carlo Cara. Carlo Cara, comme vous le voyez au départ, est futuriste, hein, il est très proche de Marinetti. Il participe d'ailleurs à la rédaction du manifeste du futurisme. Bon, ça, c'est un tableau emblématique de Cara, il est conservé au MoMA à New York. Les funérailles de l'anarchiste Galli. Galli, c'était un anarchiste qui a été assassiné lors d'une grève à Milan en 1904. Et le cortège qui accompagnait la dépouille de Galli a été réprimé par une troupe montée. On voit d'ailleurs une allusion dans la partie gauche du tableau. Hein, on discerne des chevaux, on discerne des cavaliers. Et tout ici est cacophonie, tout ici est chaos, avec ses couleurs discordantes, cette alliance criarde, agressive de rouge, de jaune, de bleu, qui zèbre le tableau et qui évoque la lutte, qui évoque le conflit. Et c'est une vision très, très abrupte, très sauvage, très physique de l'affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et puis il y a la guerre. Et Carlo Cara va avoir une remise en question très importante au lendemain de cette Première Guerre mondiale, une profonde crise intérieure qui va l'amener à se désolidariser du mouvement futuriste et à s'intéresser à l'art du Moyen-Âge et à l'art de la Renaissance. Carlo Cara, on a la chance de conserver un grand nombre de ses écrits, c'était aussi un théoricien. Il a publié notamment des articles magnifiques sur des peintres italiens comme Giotto pour le Moyen-Âge ou comme Paolo Uccello, pour la fin du Moyen-Âge, et alors qu'il est en pleine remise en question, alors qu'il cherche à renouer avec ses racines, avec la tradition italienne, il va rencontrer De Chirico à Ferrare, et ça va être une rencontre très importante, une rencontre fondamentale, et à partir de ce moment-là, Cara va se tourner vers la peinture métaphysique, avant de s'en détourner pour aller vers des visions plus réalistes, on va le voir. Alors, la première œuvre que je voulais vous montrer de Carlo Cara, c'est Les Filles de Lot. C'est une œuvre qui est peinte en 1919. Les Filles de Lot, c'est un épisode de l'Ancien Testament, de la Genèse, hein, les amours incestueuses de Lot et de ses filles qui, craignant de rester seules, craignant que la race humaine ne s'éteigne après la destruction de Sodome et Gomorre, vont enivrer leur père et vont le pousser à commettre un inceste pour perpétuer la lignée. Et là, on a un paysage aride, un paysage désolé, très très mélancolique, hein, avec un ciel immense, un ciel bleu, parsemé de quelques nuages. Le paysage ici a une place très très importante. Et au premier plan, on a ces figures monumentales, ces filles de Lot, qui sont en train de s'entretenir. Elles ont un visage très fermé, très impavide. Tout ici, hein, respire le silence, la mélancolie. Et l'immensité de ces figures accentue cette mélancolie, elle les statufie un peu, ces jeunes filles. Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait une influence entre Cara et De Chirico. On la voit là, cette influence dans cette œuvre-là, intitulée « La maîtresse de l'ingénieur ». Elle est peinte en 1921 et... on est dans un même vocabulaire. Cara a recours à des objets énigmatiques qui évoquent la science de l'homme, et pourtant l'homme est totalement absent ici. On est vraiment dans cette désolation insolite et déconcertante qu'affectionnait tant Chirico. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, Cara va se tourner par la suite vers une forme de réalisme, et il va rester fidèle à ce réalisme par la suite. Et une des œuvres emblématiques de ce tournant, c'est le Pain sur la mer. Ce tableau-là est peint la même année, hein, il est peint en 1921. On a un paysage désolé, hein, là encore l'homme est totalement absent, avec ce pain qui donne son titre au tableau, qui est un peu le héros du tableau, et qui pousse sur une plage désolée. Cara, je l'ai dit tout à l'heure, avait écrit un certain nombre un certain nombre d'articles, un certain nombre de textes. Il a notamment écrit, aidé par sa femme, une sorte de biographie, une sorte de retour aux sources. C'est très très bien écrit et c'est très émouvant parce que ça évoque tout l'itinéraire et toutes les problématiques qui secouent un artiste dans sa recherche plastique, dans sa recherche picturale. Et on a la chance d'avoir une description assez précise de ce tableau qui évoque tout à fait les pérégrinations de l'artiste et tout ce changement, toute cette évolution. Je le cite. « Avec ce tableau, j'ai cherché à recréer, dans la mesure de mes facultés, une représentation mythique de la nature. Cette vision, née d'une gestation longue et obscure, signifiait pour moi l'aube d'une nouvelle vérité picturale, quasiment étrangère à mes étapes précédentes. Je ne saurais préciser dans quelle mesure je suis parvenue à atteindre cette grande vérité, mais il est certain que ce tableau tranche avec ma production précédente et qu'en lui est imprimé cet ordre nouveau que j'ai porté à maturation à travers mon étude passionnée de la réalité de la nature depuis 1918. En commençant à peindre ce tableau, il me semblait que je savais enfin, clairement, ce que je pouvais demander à la nature. Qu'il ne soit pas facile de la dominer, j'en étais bien convaincue. Mais j'avais assez d'expérience pour espérer en tirer quelque élément qui convainc à mon goût et à ma manière de sentir. J'ai dit qu'à partir de ce moment, mon esprit était pacifié. Et je le répète, je n'étais plus troublée par le sombre désespoir de l'immédiat après-guerre, par les souffrances, par les désolations qui ont suivi mes études. J'avais acquis, désormais, une calme confiance dans mes facultés de peintre et je ressemblais aux voyageurs qui, après un long chemin, éprouvent l'ineffable plaisir de se sentir proche du but. J'avais passé l'été à Moneglia, où j'étais au contact de la mer, des falaises solitaires et du vaste ciel ligure. Ligure pour la Ligurie, hein, cette région du nord-ouest de l'Italie. Autre artiste qui a été rapproché de cette peinture métaphysique, Giorgio Morandi. Giorgio Morandi va être blessé pendant la Première Guerre mondiale, va tomber malade, et là encore, c'est un artiste qui va subir une profonde remise en question, et à cela s'ajoute la faillite du futurisme et la découverte de cette peinture métaphysique incarnée par De Chirico et par Cara. Et Morandi va se convertir pleinement et entièrement à cette esthétique de la peinture métaphysique. Et De Chirico, justement, parlant des natures mortes de Morandi, je vais vous en montrer une tout à l'heure, écrit en 1922, « Il s'efforce de tout retrouver ou créer par lui-même. Il broie patiemment les couleurs, prépare les toiles, observe les objets qui l'entourent, depuis la miche de pain sacré, sombre, zébré de crevasses comme une roche séculaire, jusqu'à la forme pure des verres et des bouteilles. Morandi regarde un groupe d'objets sur une table avec la même émotion que le voyageur de la Grèce antique lorsqu'il contemplait les bois, les vallées et les montagnes qui passaient pour être le séjour de divinités parfaitement belles et toujours surprenantes. Il regardait avec l'œil d'un croyant. Et le squelette caché de ces choses, qui à nos yeux sont mortes parce qu'immobiles, lui apparaissait alors sous son aspect le plus consolant, l'aspect d'éternité. » Donc on retrouve des thèmes importants, la patience, l'émotion devant le temps, le respect également, la révérence pour ce passé que l'artiste va transcender, que l'artiste va pérenniser en lui donnant, je reprends les termes de Chirico, cet aspect d'éternité. Alors cet aspect d'éternité, on peut le voir dans ce paysage, peint en 1927. On a une bâtisse imposante, vue en contre-plongée, et cet angle de vue, justement, va isoler davantage cette bâtisse, va renforcer sa monumentalité, sa majesté aussi. Et on a cette lumière méditerranéenne, cette lumière éclatante qui nappe les murs blanchis et qui crée un contraste saisissant avec le bleu du ciel. Une œuvre où l'homme, où l'animal est totalement absent, là c'est vraiment une nature végétale, une nature pleine et entière, qui est là et qui vient auréoler cette maison qui apparemment est déserte. Hein. Les volets sont fermés, il n'y a pas âme qui vive dans ce tableau. Alors cet aspect d'éternité dont parlait De Chirico, on le retrouve ici dans cette nature morte peinte en 1937. Tout concourt ici à la sobriété elle est pure. On a des formes simples, des couleurs très très restreintes, hein, des tons beiges, des tons marrons qui prédominent. Et on a juste par-ci par-là des touches de bleu, un bleu puissant, un bleu profond, qui viennent introduire un rythme à cette mise en scène. La peinture métaphysique va avoir une grande influence sur les artistes, hein, de cette époque. Et il y a un mouvement dont il faut parler à présent, qu'on appelle le Novecento, qui est un retour à l'ordre, qui va épouser, hein, très clairement l'esthétique et l'idéologie fasciste. Et il n'y a pas de programme explicite dans ce Novecento. Le but pour beaucoup, c'est de donner une esthétique à la révolution fasciste. Mussolini, qui n'était pas, un grand amateur d'art, hein, qui n'avait pas énormément de goût. Je suis un peu ironique, mais vous le verrez en conclusion, c'est un bourrin, hein, Mussolini. Faut dire les choses. Bref, Mussolini, en 1926, va donner une caution à ce mouvement dans un article toujours publié dans Il Popolo d'Italia. Et Mussolini déclare, à propos donc de ce courant, « L'on y trouve les reflets de cette Italie qui a fait les guerres, qui dédaigne à présent les longs discours et tout ce qui représente l'axisme démocratique qui a marché durant 25 ans et a presque rejoint et parfois dépassé les autres peuples. La peinture et la sculpture ici représentées sont fortes comme l'Italie d'aujourd'hui est forte dans son esprit et dans sa volonté. » Alors, parmi les artistes du Novecento, il y a Achille Fouli, né en 1890, mort en 1972. Achille Founi, qui au départ est un futuriste, et puis qui va s'engager pleinement dans le fascisme. Hein. Il va même collaborer à Milan à la création des premiers faisceaux de combat, donc une personnalité fasciste, hein, dans toute sa splendeur. Et Founi va adhérer à cette esthétique, à ce groupe du Novecento. Goût pour le passé, et alors là c'est assez flagrant, c'est un tableau a priori assez banal, hein, portrait d'une jeune femme, ma sœur, et c'est un tableau très intéressant parce que Founi conjugue passé et présent. C'est un clin d'œil au passé, c'est un clin d'œil à toute la tradition picturale de la Renaissance italienne, notamment en Vénétie, où on avait l'habitude de représenter des femmes, alors très généralement, hein, c'était la Vierge à l'enfant, derrière un muret, sur lequel parfois il y avait des choses qui étaient posées, très souvent des allusions à la passion du Christ, hein, généralement c'est des vierges à l'enfant. Donc premier élément, le muret. Deuxième élément, la plupart de ces vierges à l'enfant étaient représentées devant un rideau, devant une étoffe, qui parfois laissait entrevoir un paysage. Petite parenthèse, Giovanni Bellini, Vierge à l'enfant, on retrouve le muret. On retrouve l'étoffe rouge, hein, qui vient d'ailleurs valoriser la Vierge à l'enfant, et le paysage qu'on aperçoit au second plan. Autre artiste, vénitien lui aussi, Carlo Crivelli, c'est la même époque. Hein. Alors on a deux langages classiques très différents, Crivelli étant un artiste qui avait beaucoup le goût pour l'ostentation, pour le décoratif, pour le pompeux, donc très très souvent on a des guirlandes de fleurs, des guirlandes de fruits, et puis il y a le décor des vêtements aussi qui est très très poussé. Et on retrouve le muret, on retrouve l'étoffe, et on retrouve le paysage au second plan. Je retourne à Achille Founi. Donc on a ce clin d'œil au passé, et puis on a un clin d'œil au présent avec cette scène de rue qui est contemporaine. On aperçoit une moto, on aperçoit des passants qui passent à vive allure. Voilà, donc on allie à la fois le passé et le présent, et on lie les deux, on mélange les deux avec envie. Autre artiste qui a d'abord été futuriste et puis qui ensuite s'engage dans cette esthétique du Novecento, c'est Mario Sironi. Lui aussi, né à la fin du 19e siècle, hein, il est né en 1885, il meurt en 1961. Sironi, là aussi, hein, engagement fasciste total, c'est une adhésion consciente, une adhésion assumée. Il veut donner une esthétique à la dictature, considérée comme une révolution, et il considère très modestement, que son œuvre est partie intégrante de la construction et de la légitimation du fascisme. Il écrit, je le cite, « Le fascisme est un style de vie, c'est la vie même des Italiens. l'art fasciste prendra forme petit à petit en tant que résultat du long labeur des meilleurs. Dans l'État fasciste, l'art aspire à une fonction sociale, une fonction éducative. Elle doit traduire l'éthique de notre temps. Donc cette dimension pédagogique, elle doit vraiment être à l'esprit quand on observe les œuvres de Mario Sironi. Ça, c'est une peinture peinte en 1925, intitulée La solitude. On a un côté très léché, hein, très réaliste, hein, de cette femme vue de profil, sans expression, hein, sans émotion. Elle est impavide, elle regarde sans réaction un horizon quelque part. Elle est à moitié nue et elle est dans un intérieur qui ne nous donne aucune indication sur le lieu dans lequel elle se trouve. Il a peint donc des tableaux comme celui-ci, Sironi, puis il a peint également de nombreuses fresques murales. Sironi va être très inspiré par le muralisme mexicain et le muralisme pour lui est l'occasion de donner un message immense et très convaincant, très, très expressif au fascisme. Alors, j'ai choisi de vous présenter cette œuvre-là qui n'est pas une peinture, qui est une mosaïque. L'Italie corporative, c'est une œuvre qui est conservée à Milan. Donc il y a des clins d'œil au motif fasciste. Hein. Vous regarderez dans la partie supérieure, on retrouve l'aigle, les ailes déployées. Il y a des clins d'œil à tout ce passé romain, ce passé vénéré qu'on regarde avec déférence, avec admiration, parce qu'il vient légitimer le présent. Donc on peut voir dans la partie supérieure à gauche cet homme en toge. On peut voir également dans la partie inférieure des personnages, hein, qui semblent tout droit tirés de l'Antiquité. Et puis des personnages qui sont monumentaux, qui sont impavides, qui regardent de leur majesté, de leur tranquillité l'homme de l'époque. Voilà, l'Antiquité vient pleinement légitimer et renforcer l'idéologie fasciste. Alors, dans les retours aux sources, il y a un retour donc à l'Antiquité romaine, il y a aussi un retour à l'Antiquité étrusque. Et un artiste qui va être profondément influencé par l'esthétique étrusque, c'est Massimo Campigli. Massimo Campigli, comme son nom ne l'indique pas, est allemand, mais il va vivre et travailler en Italie. Là aussi, hein, c'est un artiste qui naît à la fin du 19e siècle, il naît en 1895, et il va être donc très très influencé par l'art étrusque. Alors l'art étrusque, hein, c'est l'art des premiers peuples d'Italie. Dans l'Antiquité, on est grosso modo au 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ, et les œuvres des Étrusques, ce sont des œuvres qui sont assez influencées par l'art grec, mais il y a une certaine... ce sont des visages souriants, ce sont des visages sereins. Au Louvre, il y a une sorte de monument funéraire avec un couple étrusque. C'est un des chefs-d'œuvre du musée du Louvre. Hein. Quand vous allez sur le site, vous tombez dessus assez rapidement. Et ce couple a vraiment un visage très beau, très apaisé, très souriant, ce qui est assez atypique pour cette époque. Bref, Campigli va donc être fasciné par l'art étrusque, et donc les figures qu'il campe sont marquées par un certain archaïsme. Alors, on a ici un tableau qui s'intitule « Les épouses des marins ». On a juste la ligne d'horizon qui vient nous donner quelques indications, mais ici la terre et le ciel se confondent, et les figures sont juxtaposées, elles sont extrêmement stylisées, on a l'impression qu'elles sont plaquées. On n'a pas vraiment une impression de volume ici. On a l'impression qu'elles sont plaquées sur ce paysage, et du coup ça renforce la planéité de la composition. Et tout à l'heure j'évoquais donc le visage souriant des figures étrusques. On les retrouve ici dans cette danseuse peinte en 1941 et 1942. Cette danseuse qui émerge d'un espace un peu abstrait. Hein, on a l'impression qu'elle est en train d'être mise au monde à travers une gangue de tissus, et elle vient saluer le spectateur. Un visage souriant, un visage apaisé, pas très très expressif. On est vraiment dans une sorte de bonheur irradiant et calme. Donc l'Italie, elle a vraiment un rôle, à travers la peinture métaphysique et à travers le Novecento, elle a un rôle dans la redécouverte d'un certain classicisme qui va caractériser l'Europe à cette époque, après le déferlement des avant-gardes. Pour autant, en Italie, il y a un certain nombre d'artistes qui vont réagir à ce classicisme, et ces artistes, on les retrouve dans l'école romaine, notamment. Alors, l'école romaine, qu'est-ce que c'est ? C'est une association spontanée d'artistes et d'intellectuels dans l'appartement d'un couple, Antonietta Raphaël et Mario Maffei. Ils avaient un appartement sur la Via Cavour, donc c'est un groupe qu'on appelle aussi l'école de la Via Cavour. Et ces artistes, on peut les rapprocher de l'expressionnisme. En tout cas, ils ont envie d'apporter quelque chose de différent. Ils ne se reconnaissent pas dans cette esthétique très, très, très léchée. Ils vont donc traduire ce goût pour l'expressionnisme dans leurs œuvres. Antonietta Raphaël, qu'on voit ici dans cet autoportrait peint en 1928, c'est une artiste qui n'est pas italienne. Elle est née en Lituanie en 1895. Et elle a un parcours cosmopolite à travers l'Europe. Elle est juive, donc elle va fuir les pogroms. Et elle va s'installer en Italie sur le tard. Elle va rencontrer Mario Maffei. Ils vont s'aimer et vivre ensemble tout au long de leur vie. C'est une artiste qui a été reconnue sur le tard, qui est vraiment une des chevilles ouvrières de cette école romaine. Et voilà, on a un tableau ici. Qui évoque l'expressionnisme dans ce visage immense et disproportionné qui vient emplir tout l'espace du tableau. Un visage entêtant avec des yeux immenses, hein, démesurément grands, qui viennent hanter durablement le spectateur. Son compagnon, Mario Maffei, est lui aussi un cosmopolite. Il va séjourner à Paris, il va être très influencé notamment par des artistes comme Amedeo Modigliani, comme Marc Chagall, comme Chaïn Soutine. Et dans cette œuvre-là, Coucher de soleil sur le Lungo Tevere, on a cette influence de Chaïn Soutine. Alors Chaïn Soutine, c'est un artiste qui a été totalement oublié, qui a été reconnu un peu sur le tard. Il y a eu pas mal d'expositions qui ont été consacrées à lui. Il y a un musée dans le sud-ouest, là, à Serré, un musée absolument génial. Le village est minuscule, il y a un musée gigantesque avec des œuvres de Soutine. C'était un artiste expressionniste, donc, qui peint des figures complètement déformées. Alors lui, il peint vraiment avec ses tripes, et on a une utilisation de la couleur, des couleurs très véhémentes, très, très vives, qui viennent traduire toute la gestuelle et tous les tréfonds des personnages. Et là, dans ce tableau-là, dans la façon qu'il a, Maffei, de peindre le paysage urbain, un paysage un petit peu fluctuant, dans la façon qu'il a de peindre l'eau et les reflets, justement, de ce coucher de soleil sur l'eau, on a vraiment un clin d'œil à Soutine et à Chagall. Autre artiste de cette école romaine, Scipione, de son vrai nom Gino Bonicchi, qui a une carrière fulgurante. Il meurt très jeune, il meurt à 29 ans de la tuberculose en 1933. Et Scipione va vouloir peindre des scènes de rue, notamment dans des visions très, très mouvantes, très exaltées, avec des coloris virulents. Alors là, c'est symptomatique ici. Là, il peint la place Navone. La place Navone, c'est une grande, grande place à Rome, hein, qui a été construite sur les ruines du stade de Domitien. Donc elle a gardé cette forme un peu ovale. Et c'est la place baroque par excellence, hein. Elle est bordée de palais, elle est décorée par cette fontaine là qu'on voit au premier plan, qui est une création du Bernin au XVIIe siècle, la fontaine des quatre fleuves. Et là, on a une vision très, très flamboyante. Et ce côté rugissant, ce côté flamboyant, il est accentué par ce ciel rougeoyant. On a presque une vision d'apocalypse ici, hein. Les formes, on a l'impression qu'elles bougent, qu'elles ondulent. Donc une vision onirique, mais j'ai même envie de dire une vision cauchemardesque. Puis je voulais terminer ce panorama de la peinture. C'est pas tout à fait fini, parce que je voudrais faire un clin d'œil au cinéma aussi. Bref, je voulais terminer ce panorama de la peinture par Renato Guttuso. J'ai évoqué des artistes qui se sont un petit peu fourvoyés dans le fascisme. J'ai évoqué des artistes qui, ensuite, ont par leur esthétique, combattu le côté léché, tant affectionné par les fascistes. Je voulais quand même terminer par des artistes qui ont résisté Et Guttuso, lui, est le résistant à l'état pur. Il va combattre le fascisme et dans son art, il va combattre le classicisme en construisant un parcours en totale opposition avec l'esthétique de l'époque. Une œuvre phare et une œuvre assez intéressante dans ce contexte de l'entre-deux-guerres et de la guerre d'ailleurs, La Crucifixion, peinte en 1941. On a une représentation ici très atypique, puisque d'habitude, quand on a des crucifixions, on a les trois croix, la croix du Christ et les croix des deux larrons, qui sont disposées les unes à côté des autres. Là, pas du tout. Là, les croix sont rassemblées les unes derrière les autres, si bien que d'emblée, l'on ne discerne pas le Christ. Et ce n'est que dans un second temps que l'on reconnaît la couronne d'épines, que l'on reconnaît la plaie, et au-delà, on a ce linge blanc qui vient singulariser, qui vient valoriser le corps inerte du Christ. Mais au départ, on ne le voit pas. Au départ, on a une cacophonie des couleurs, des couleurs très, très pétantes, qui renforcent l'aspect abrupt, tourmenté du paysage. On a la cacophonie de ces femmes qui sont dans le désespoir. L'une se tient la tête, l'autre s'agrippe au drapé qui recouvre le corps du Christ. On en voit une autre en partie cachée qui est en train de lever les bras vers le ciel, un signe de désolation, un signe de désespoir. On a la cacophonie de ce cheval qui se tourne vers nous, qui est en train de hennir. Donc on a vraiment une œuvre où domine le chaos. Et Guttuso, justement, et on le sait parce qu'il l'a écrit, veut rendre ici toute la douleur, tout le tourment de ses contemporains qui vivent la guerre et qui vivent toutes les privations, tous les outrages du temps. C'est un cours qui est basé sur l'image, donc je voulais faire une petite incursion dans le cinéma, très modeste, parce que moi mes connaissances en cinéma sont assez indigentes, mais tout de même, le cinéma à l'époque fasciste, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Le cinéma, c'est un extraordinaire support pour la communication. C'est l'image incarnée, l'image vivante, l'image animée, et l'état fasciste va montrer un intérêt grandissant pour le cinéma. En 1924, on crée une société cinématographique, la Luce, qui va être nationalisée, et progressivement, toutes les images de la Luce vont servir à cette liturgie fasciste. En 1935, on crée le Centre expérimental de cinématographie pour former les professionnels du cinéma. On va créer également un office national pour les industries cinématographiques. Donc voilà, il y a un vrai intérêt pour le cinéma. Et pourtant, il y a relativement peu de films politiques, entendre des films qui seraient chargés de promouvoir, de magnifier la politique fasciste. On n'est pas vraiment dans la propagande à proprement parler. Par contre, on est dans des films qui s'inscrivent dans un cadre idéologique et qui véhiculent une image normée de la société. Dans tous les films de cette époque, tous les écueils de la société sont purement et simplement gommés. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de situation difficile. On est dans une société lisse, dans une société ordonnée. Et si jamais il y a un couac, et bien tout de suite, on va avoir une cohésion du peuple pour amener à nouveau de l'ordre et à nouveau de la paix. Alors, trois films que j'évoquerai très très rapidement. Le premier est un film de Mario Camerini, réalisé en 1929. Je vais sans doute écorcher le titre. Roté. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un couple, c'est l'histoire d'un couple prêt à céder aux sirènes d'une vie superficielle, d'une vie oisive, et ils vont trouver le bonheur dans une vie simple et modeste. Et ils vont se rendre compte que c'est ça le plus important. Autre film qui là aussi va opposer toute une population oisive et une paysannerie laborieuse, porteuse des vraies valeurs, Terra Madre. C'est un film qui a été réalisé par Alessandro Blasetti en 1930. Alors la paysannerie, c'est le thème de prédilection pour le fascisme. Hop, je vous montrais tout à l'heure Mussolini n'hésitant pas à fouiller le sol de Rome. Eh bien voici Mussolini n'hésitant pas à prendre des gerbes de blé et à prêter main forte aux paysans. Mussolini il y a eu tout un tas de travaux agricoles dans l'Italie. On a asséché des tas de marais pour en faire des terres fertiles, des terres cultivables. Donc voilà, il y a ce message de la stérilité des terres qui tout d'un coup deviennent, grâce à l'action fasciste, des terres fécondes, des terres exploitables. Et là, dans cette photographie, qui est une photographie de propagande, on est vraiment dans le mythe d'un monde rural et préservé grâce à Benito Mussolini. Je reviens à Terra Madre, qui présente la ville comme un lieu fallacieux, comme un lieu synonyme de perdition, et qui va être en totale opposition par rapport à la campagne, qui au contraire est considérée comme un réservoir intact et vierge de vraies valeurs. L'histoire de Terra Madre, c'est l'histoire d'un jeune aristocrate, grand propriétaire terrien, qui envisage de vendre ses terres pour mener une vie plus attirante en ville. Et puis en fait, il va être obligé de revenir sur ses terres, il va conclure la vente, et là il se rend compte que non, il a un attachement viscéral pour la campagne, et donc il va prendre la tête de son exploitation, tout est bien, qui finit bien. Et enfin, alors bon, là je me fais plaisir, film à grand spectacle, Scipion l'Africain, réalisé entre 1936 et 1937 par Carmine Gallone. Et bon, Scipion l'Africain, c'est un général romain de l'Antiquité, du IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est le grand vainqueur de Carthage en Tunisie. Et c'est pas un hasard si on a ce thème-là. L'Italie a eu des ambitions coloniales, elle a voulu superposer cette Italie fasciste, elle a voulu superposer son destin au destin des grands empereurs romains. Et comme les grands empereurs romains avaient conquis des territoires en Afrique du Nord, eh bien Mussolini va vouloir conquérir des territoires en Afrique, notamment en Libye. Et le scénario de Scipion l'Africain est écrit au moment de la victoire de l'Italie en Éthiopie. Le tournage a lieu en Libye, hein, je le disais tout à l'heure, la Libye va être récupérée, hein, spoliée par l'Italie. Et donc il y a toute une résurgence des ambitions africaines, et là on est vraiment dans la légitimation de la figure de Mussolini qui finalement se surimpose bien sûr à celle de Scipion l'Africain. Voilà, tous les rêves de grandeur de Mussolini. Je voulais conclure en parlant d'un tout petit livre, minuscule, qui est absolument génial. Un livre écrit par Anuccio Bianchi Bandinelli, intitulé « Quelques jours avec Hitler et Mussolini ». Bianchi Bandinelli, en 1938, est réquisitionné pour accompagner Hitler et Mussolini dans leur visite de Rome et de Florence. C'est pas du tout un fasciste, hein, c'est un archéologue. Il se voit contraint de jouer les guides touristiques, ça ne l'enchante absolument pas. Et suite à ces visites complètement surréalistes, il va écrire un tout petit livre dans lequel on voit que Mussolini n'est pas toujours très au fait des choses de l'art. Je cite Bianchi Bandinelli. Quelques jours avec Hitler et Mussolini. Les rapports entre les deux hommes étaient singuliers. Il était évident qu'ils ne se plaisaient pas. Hitler, qui était déférent, se montrait parfois servile, mais jamais amical. Mussolini, en revanche, traitait son invité avec désinvolture, parlant un allemand fluide, au vocabulaire assez étendu, marqué toutefois d'un fort accent romagnol. Il prenait un air soupçonneux quand Hitler étalait des notions culturelles. Son regard courait aussitôt à moi, qui étant en appui, comme s'il redoutait de ne pas être à la hauteur. En sortant du musée des Thermes, après un coup d'œil à la maquette reconstituant l'immense édifice antique, Mussolini me demanda si le nom de l'architecte était connu. À ma réponse négative, il s'exclama avec satisfaction « L'architecture est toujours anonyme. Terme de Dioclétien, terme de Caracalla, Panthéon d'Agrippa, Forum de César, Forum d'Auguste. Et aujourd'hui, ajouta-t-il avec une moue de mépris, ces architectes voudraient laisser leur signature. » J'ignore s'il pensait au Forum Mussolini ou aux nombreuses épigraphes portant son nom qu'un restaurateur d'édifices antiques bien connu avait disséminé partout dans Rome. Mais l'idée lui avait tellement plu que, dans la voiture, il voulut la répéter en allemand à son voisin. Avec son air absent, Hitler objecta « Pourtant, on connaît des noms d'architectes de l'Antiquité. On connaît l'architecte des Propylées sur l'Acropole d'Athènes. On connaît Phidias pour le Parthénon. » Mussolini m'appela au secours d'un regard qui faisait pitié et me poussa en effet à penser « Pauvre bougre, on va lui donner ce qu'il veut. » Avec mon plus beau sourire, je fis observer « Exact, mais monsieur le chancelier se réfère au monde grec, où avait cours le culte de la personnalité, alors que vous pensiez au monde romain, où la personnalité s'annule devant la majesté de l'Empire. » Remarque d'une parfaite bêtise, qu'un des deux camps accueille avec satisfaction, tandis que dans l'autre, Hitler réplique « Pourtant Vitruve, alarmé, Mussolini répète « Vitruve ? Pas de panique. Vitruve, dis-je, n'a laissé aucun édifice auquel nous puissions attacher son nom, nous le connaissons seulement parce qu'il est l'auteur d'un traité. » Voilà, ça pose bien le personnage de Mussolini, qui n'était pas donc un grand amateur d'art. Rien à voir donc avec l'esthétique formatée des régimes totalitaires allemands et soviétiques. Il y a de fait, alors j'ai essayé de montrer ce soir, plusieurs sensibilités qui coexistent dans ce contexte politique, social, culturel très très particulier. Et si certains artistes ont clairement et sciemment collaboré avec le fascisme, d'autres ont tenté de préserver leur intégrité d'homme et de préserver leur singularité d'artiste. Ce qui fait finalement de cette période, et je terminerai là-dessus, un creuset de création, d'expression, un creuset particulièrement fécond, très très loin des images stéréotypées qui sont largement matraquées par les totalitarismes de cette époque. En ce sens, toute la création artistique de cette Italie fasciste est vraiment particulière et vraiment singulière. Voilà, je vous remercie.